Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. On les appelle les ingénieurs du sol. Qui ? Les vers de terre. Ces lombriciens qui peuplent nos sols et qui ont un rôle majeur pour leur biodiversité et donc leur vitalité. Mais sont-ils assez reconnus pour leurs bienfaits ? Avant d'en parler dans quelques minutes avec Daniel Cluzeau, enseignant-chercheur, fin connaisseur des vers de terre à l'Université de Rennes, direction tout d'abord la station biologique de Paimpont, où l'Observatoire participatif des vers de terre vient régulièrement dispenser des formations sur l'intérêt de cette espèce et la façon de mieux la protéger. C'est un reportage signé Lucie Loapre de Canal B, votre radio associative à Rennes et dans sa région.
Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est se positionner là pour faire les premiers prélèvements parce qu'on se rapproche du site. Si jamais il pleut, qu'on puisse se mettre à l'abri. Ben c'est parti, on va être sous la pluie.
Bonjour, oui, moi je m'appelle Sarah Guillochot, je suis spécialiste des vers de terre en milieu tempéré.
On va juste se positionner là-bas.
Et sous la pluie, autour de Sarah, il y a des membres de l'Observatoire des vers luisants, un chercheur qui étudie la bioluminescence et une étudiante en biologie, écologie, environnement, et enfin une personne de la Chambre d'agriculture de Corse.
On est à la station biologique de Paimpont. Donc moi, dans le cadre de mes activités, j'ai proposé à différentes personnes de venir en apprendre plus sur les vers de terre et donc d'être formé à la vie, l'œuvre des vers de terre, l'intérêt qu'ils ont dans les sols et puis quel est l'impact des pratiques agricoles sur les lombriciens.
Ces temps de formation, ils sont organisés dans le cadre de l'Observatoire participatif des vers de terre. Comment on explique ce que c'est cet observatoire ?
Oui, donc l'Observatoire participatif des vers de terre, il a sa petite abréviation, donc l'OPVT. Donc ça, il a été créé en 2011 à l'initiative du chercheur Daniel Cluzeau, donc qui est de l'Université de Rennes et qui est donc basé à la station biologique de Paimpont. Il a créé cet observatoire pour permettre à tout le monde de pouvoir regarder quels sont les vers de terre qu'ils ont dans leur jardin, dans leur parcelle agricole, dans leur forêt et de pouvoir en apprendre plus, donc tout en se sensibilisant sur les vers de terre, de pouvoir aussi faire des prélèvements, donc des protocoles très standardisés, et puis de pouvoir envoyer la donnée, ce qui permet à la recherche aussi de progresser, puisqu'on a besoin de savoir quels sont les vers de terre, en quelle quantité, quelles sont les espèces que l'on va retrouver dans toute la France.
C'est national comme observatoire ?
Ah oui, oui, c'est complètement national. Donc ça a été lancé donc, à l'initiative de l'Université de Rennes avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, le MNHN. Et donc, du coup, main dans la main avec les protocoles donc, de Viginature. Le muséum a développé plein de protocoles, mais notamment celui des vers de terre. Donc voilà, au début, avec le protocole moutarde, où on mélangeait de l'eau avec de la moutarde, on épandait sur le sol et puis donc sur 1 mètre carré. Et on récupérait tous les vers de terre qui remontaient à la surface. Maintenant, on a adapté aussi ces protocoles. On les garde pour le scolaire, parce que c'est quand même super sympa de voir ces vers de terre remonter avec cette potion magique. Mais pour le monde agricole, où on va plutôt utiliser ce qu'on appelle le protocole test-bêche, où là, avec une bêche, on va décaisser un bloc de 20 cm par 20 cm. On va faire ça 6 fois. On va récupérer tous les vers de terre qu'on a dans ce bloc et on va regarder quelle catégorie de vers de terre on va retrouver.
Donc, moi, je vous encourage à avoir un emporte-pièce en plexi. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va décaisser ce bloc de 20 par 20. Voilà. Et donc, j'essaie d'enfoncer le plus possible pour aller jusqu'à 25 cm.
Et bien, vers de terre, intéressant pour plein de choses. Hein. Moi, c'est ma grande passion. Je pourrais en faire de la propagande pendant des heures. Mais les vers de terre, ils vont venir aussi bien fragmenter la matière organique donc à la surface des sols, mais ils vont venir aussi l'enfouir, brasser, incorporer cette matière organique, remonter de la matière minérale. Enfin, ils vont vraiment participer à la dynamique des sols. On dit que les vers de terre sont ingénieurs des écosystèmes. Ils vont modifier les propriétés physiques, Déjà par la création de galeries, hein, ça va permettre d'aérer le sol, de permettre à l'eau de s'infiltrer. Les propriétés chimiques, ils vont rendre certains éléments beaucoup plus disponibles, et notamment pour les plantes. Et puis aussi pour le côté biologique, le pouvoir aider les micro-organismes et tous les autres organismes du sol à pouvoir bien se développer. Il y a ce côté aussi bio-indicateur, c'est que le ver de terre, il est sensible à son environnement. Et donc on a des méthodes standardisées pour le prélever, mais aussi du coup on peut voir quelle gestion peut avoir, quel impact sur quel ver de terre. Par exemple, on sait que travailler son sol, on prend le risque de couper les vers de terre.
On imagine aussi un impact des engrais chimiques ?
Effectivement, il y a des produits phytosanitaires qui peuvent avoir un impact parfois sur le ver de terre, mais parfois sur sa reproduction, sur le développement aussi des jeunes générations. On peut parler d'impact positif aussi d'une gestion, c'est par exemple la fertilisation, le fait d'apporter de la matière organique sur nos sols vont permettre un bon développement de ver de terre. On dit souvent le gîte et le couvert.
Il y a combien d'espèces de ver de terre et est-ce qu'ils sont touchés par la chute de la biodiversité ou pas ?
C'est une question qui est étudiée, donc il n'y a pas que l'Université de Rennes qui travaille sur les vers de terre, il y a énormément de chercheurs dans le monde entier, mais en France on a une dizaine de chercheurs dans chaque ville qui travaillent sur ça. Et donc combien on a d'espèces de vers de terre en France ? On en a plus de 150 espèces. On en retrouve encore, il y a des équipes qui retrouvent de nouvelles espèces. Maintenant, savoir aussi la chute de la biodiversité, et notamment pour les vers de terre, c'est une vaste question. Il y a 50 ans, il y a un chercheur qui s'appelle Marcel Boucher qui a fait énormément de prélèvements dans toute la France pour échantillonner tous les vers de terre un peu de France. Et donc d'autres chercheurs repartent sur les traces de Marcel Boucher et refont des prélèvements pour voir effectivement, entre autres, est-ce qu'on a une perte de biodiversité ou pas.
C'est un travail qui est en cours.
Et voilà, c'est un travail qui est en cours. Ouais. Oui, à votre avis, là, lui, quel vers de terre c'est ?
Il a une tête foncée et plus claire après.
Ouais, il a une tête foncée et puis il a une queue plus claire. Déjà, premier indice, juvénile ou adulte ?
Adulte. Là, par contre, on voit vraiment bien.
Ouais. Elle est belle, sa bague. Donc du coup, effectivement, là, on est sur un épigée, puisqu'on est sur un ver de terre qui est un adulte avec une bague et qui va faire 4 cm de long. Et il est quand même uniformément bien foncé. Et donc, effectivement, on est sur un épigée.
Qui sont les équipes qui font vivre cet observatoire et puis à travers quel type d'action ?
Oui, alors du coup, il y a vraiment beaucoup d'initiatives diverses et variées. Donc du coup, c'est les équipes de Daniel Cluzeau qui font vivre cet observatoire. Et puis après, on va aller avec du scolaire, on peut aller aussi avec des gestionnaires. On va déployer aussi donc, des fois des initiatives avec la région Bretagne, notamment l'OFB.
Office français de la biodiversité.
Qui vont venir financer des initiatives locales à travers par exemple des ABC, les atlas de la biodiversité communale. Mais on a aussi par exemple l'Observatoire de Paris qui a souhaité développer ça en Île-de-France. Et puis on a des initiatives aussi nationales. Les animations qu'on va proposer, elles ne sont pas forcément régulières, elles sont assez sporadiques. Donc le site internet de l'OPVT, c'est EcoBioSoil. Et dessus, on va retrouver tous les protocoles pour savoir comment aller prélever dans son jardin, avec ses enfants, avec sa classe scolaire, les clés pour pouvoir identifier soi-même les différentes catégories de vers de terre, retrouver toutes les informations. Et du coup, vous trouverez aussi nos actualités si vous voulez vous joindre à nous lors d'un stand ou lors d'une animation. Et l'Observatoire participatif des vers de terre, c'est à la base un peu pour le grand public, mais c'est aussi avec l'unité de recherche donc de Daniel Cluzeau, l'UMR EcoBio. Là, il y a le RMQS, c'est le réseau de mesure de la qualité des sols, qui regarde donc tous les 16 km. Il y a un maillage très précis dans toute la France. Et là, maintenant, ils développent le RMQS Biodiv. C'est de regarder donc, sur ces points la biodiversité, donc avec les micro-organismes, mais aussi du coup les vers de terre. Et donc, la phase test a lieu cette année avec 72 sites échantillonnés. Et donc, on va préparer les campagnes de terrain, aller faire les prélèvements et aller identifier du coup tous les vers de terre qui auront été prélevés comme ça.
Enfin, quitte à faire tout ça, autant avoir la notion de biomasse, oui. Ne serait-ce aussi pour pouvoir donner à l'agriculteur qui prête sa parcelle, oui. Pour une étude.
Je crois qu'avant de connaître un tout petit peu sur les vers de terre, j'imaginais qu'il y avait une espèce représentative de tous les vers de terre. Et puis en fait, je me suis intéressée donc, à travers les sciences participatives aux vers de terre pour pouvoir justement faire de l'animation auprès du public scolaire. Et puis à partir de là, je ne suis jamais repartie, donc ça va faire 10 ans. Le ver de terre m'accompagne au quotidien.
C'est aussi un peu un beau cadeau. Ouais. Moi, je dis et ça parce que je suis passionnée des vers de terre. Je considère qu'on m'offrirait ça comme cadeau. Je serais ravie.
À l'instant, ce reportage réalisé par Lucie Loipre de Canal B, votre radio associative rennaise, reportage à la station biologique de Paimpont avec l'Observatoire participatif des vers de terre, observatoire dont le référent scientifique est l'Université de Rennes 1. Et justement, pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes en liaison avec Daniel Cluzeau, enseignant-chercheur à l'Université de Rennes, spécialisé sur la distribution et l'écologie des vers de terre à l'unité mixte de recherche CNRS Ecobio, et donc responsable scientifique de cet observatoire participatif des vers de terre. Daniel Cluzeau, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans le reportage qu'on vient d'entendre, on parle des vers de terre comme des ingénieurs du sol. Pourquoi ces vers de terre sont-ils aussi essentiels à la vie du sol, Daniel Cluzeau ?
Ces vers de terre sont essentiels à la vie du sol, car ils vont modifier les différents compartiments que l'on peut trouver dans le sol, aussi bien le compartiment biologique, en stimulant les activités microbiennes, puisqu'ils vont transférer de la nourriture de la surface du sol dans la profondeur du sol, et ainsi les microbes, bactéries, champignons vont pouvoir s'en nourrir. Ils contribuent aussi à modifier la structure du sol, donc les éléments solides dans le sol, et en modifiant la structure, ils la rendent plus grumeleuse. Et cette structure grumeleuse, eh bien, elle va permettre de retenir beaucoup plus d'eau pour l'alimentation des plantes, par exemple. Ça permet aussi aux racines de pouvoir progresser dans le sol de manière plus aisée et en même temps récupérer des nutriments qui vont être libérés par les activités microbiennes qui ont été stimulées par les vers de terre.
Ça veut dire que ces vers de terre ont des qualités physiques, finalement, intrinsèques, qui leur permettent de véritablement travailler le sol. Comment ça se passe
concrètement ? Ingénieur du sol, ça veut dire modifier un écosystème et le fonctionnement de cet écosystème au bénéfice d'autres espèces. Et donc là, les vers de terre modifient le fonctionnement du sol au bénéfice de différentes espèces qui vivent dans le sol. Et en même temps, ça a des impacts sur les fonctions du sol et donc sur les services rendus par les sols, aussi bien en termes de nutrition, donc d'alimentation des plantes par les racines, mais aussi la rétention, donc la capacité du sol à retenir de l'eau pour alimenter les plantes. Ça peut être aussi la bioépuration, puisqu'il y a une stimulation des microbes par les vers de terre, et bien ces microbes vont pouvoir dégrader aussi les molécules organiques qui sont étrangères au sol. On pensera aux pesticides, mais il n'y aura pas que ça forcément comme ressource qui n'appartiennent pas au sol, mais qui arrivent sur les sols.
Pour qu'on comprenne bien, Daniel Cluzeau, c'est le travail que font les vers de terre dans la terre, c'est quoi ? C'est ils avalent de la terre ? Comment ça se passe en fait ?
Après, ça dépend. Ils avalent de la terre pour pouvoir se déplacer dans le sol, puisqu'il faut qu'ils arrivent à creuser des galeries. Donc, ils peuvent creuser des galeries en ingérant de la terre. On va parler de vers de terre géophages qui mangent de la terre, mais ils ont la capacité aussi avec leur musculature de écarter les espaces libres dans le sol pour se déplacer. Et donc là, ce sont des espèces de grande taille avec une forte musculature. Chez les vers de terre, on distingue trois grands groupes écologiques avec des espèces qui vont vivre à la surface du sol dans les amas de matière organique en décomposition, les tas de feuilles mortes, les composts. Il y aura des espèces qui vont vivre tout le temps dans le sol. Elles sont appelées endogées. Ces espèces endogées, elles vont se déplacer dans le sol en ingérant de la terre. Et elles vont transformer la structure du sol, justement, en structure plus ou moins grumeleuse. Et ainsi contribuer à différentes fonctions dans le sol. Et puis, il y a une troisième catégorie qui fait la synthèse entre les deux. Elle vient se nourrir à la surface du sol et elle vit dans le sol quand elle ne se nourrit pas. Ce sont les grandes espèces que l'on connaît, comme le lombric commun. Ce groupe est appelé anéssique. Et ces anéssiques sont les principaux acteurs de l'impact des vers de terre sur, justement, les déjections, donc les qu'on voit à la surface du sol. Ça s'appelle des turicules, ou ça s'appelle aussi des cabanes à vers de terre. Ces anéssiques sont capables aussi de creuser dans le sol des galeries plus ou moins verticales. Et ça va contribuer à l'infiltration de l'eau, comme actuellement on a besoin que l'eau s'infiltre plus vite dans le sol pour éviter l'érosion, eh bien les anéssiques, s'ils sont présents, vont contribuer justement à ce qu'on appelle le ressuyage des sols, le fait d'enlever l'eau en surcharge dans les sols. Donc voilà, ces espèces épigées, endogées et anéssiques ont des rôles complémentaires pour contribuer aux fonctions du sol. Et bien sûr, occuper aussi dans ce sol différentes niches écologiques.
Justement, on parle peut-être de clé de voûte, finalement, pour la biodiversité de ces vers de terre.
C'est un des atouts des vers de terre, c'est de construire donc un milieu favorable à d'autres espèces. Mais en même temps, si ces vers de terre disparaissent, eh bien déjà, les microbes du sol vont être beaucoup moins alimentés de par les matières organiques qu'on aura laissées en surface, puisqu'il n'y aura plus de transporteurs. Et quand il n'y a plus de transporteurs, les microbes ne sont pas forcément capables de déplacements importants, voire très faibles. Et donc, ces activités microbiennes vont diminuer. C'est valable aussi pour les espèces qui ne sont pas capables de creuser une galerie dans un sol. Elles utilisent des galeries créées par les vers de terre pour se déplacer dans les sols. Eh bien, si les vers de terre disparaissent, donc les anésiques par exemple, ou les endogées, eh bien, ces espèces vont avoir plus de difficultés à se progresser dans le sol et à trouver des espaces vides dans lesquels elles vont pouvoir progresser.
Est-ce que parmi les autres atouts aussi des vers de terre, est-ce qu'ils sont capables aussi de contribuer à limiter les maladies du sol et donc l'usage de produits phytosanitaires, notamment dans l'agriculture?
Il y a des recherches sur cette dimension-là. Il n'y a pas forcément beaucoup pour l'instant de résultats, mais on a déjà identifié que justement les vers de terre stimulant les activités microbiennes, donc bactériennes, ou des champignons, donc fongiques, eh bien, ils peuvent diminuer l'expression de ces maladies fongiques. Donc, je prends par exemple une maladie fongique de la pomme, ça s'appelle la tablure, je crois. J'en suis pas sûr. Et donc, le champignon est sur les feuilles du pommier. Et si l'automne est très sec, l'hiver très sec, les vers de terre sont très peu actifs et il reste beaucoup de feuilles mortes du pommier à la fin de l'hiver. Et donc là, on a détecté que le transfert de maladies fongiques était beaucoup plus important que lorsque l'automne et l'hiver étaient humides, où les vers de terre avaient beaucoup d'activité, et donc faisaient disparaître cette quantité importante de feuilles de pommiers mortes pour les enfouir dans le sol, et donc ainsi faire disparaître les champignons de la surface du sol et les mettre en compétition avec les champignons du sol qui sont partout dans le sol. Et donc là, ces champignons-là qui sont introduits par les vers de terre dans le sol se trouvent en compétition et donc ils sont beaucoup moins agressifs, entre guillemets. Il y aura donc beaucoup moins d'expression de maladies au printemps suivant et donc des besoins beaucoup moins importants de fongicides.
D'accord, donc ces vers de terre, ce sont, on l'a dit, des ingénieurs du sol qui sont aussi capables de pouvoir, dans certains contextes, limiter certaines...
De contribuer à limiter les maladies du sol. Hein.
Et parmi ces atouts multiples de ces vers de terre qu'on découvre ensemble, est-ce qu'il y en a aussi certains qui sont peut-être moins connus ou surprenants dont vous souhaiteriez nous parler?
Oui, il y en a peut-être un intéressant, parce qu'on n'y pense pas vraiment, mais on le sait, c'est que les vers de terre sont souvent mangés par des oiseaux. Et les vers de terre en zone tempérée, donc en climat tempéré, c'est la première biomasse animale terrestre. C'est-à-dire que dans un hectare de prairie, par exemple, on va trouver plus de 3 tonnes de vers de terre vivants dans cette prairie. Et donc, en fin de compte, cette première biomasse animale terrestre, c'est une ressource alimentaire pour plus de 200 prédateurs. Et on pensera à la bécasse, par exemple, bécasse des bois. On pensera à la chouette chevêche qui nourrit ses petits avec des grands vers de terre anésiques. Et puis sinon, par rapport à ça, on connaît aussi des mammifères. Il y a le blaireau, par exemple. Il y a des travaux scientifiques qui montrent que la densité de blaireau est fonction de la densité de prairies permanentes dans le paysage, et donc de vers de terre dans le paysage. Et donc ça a été démontré en Écosse, en Pologne, en Espagne, en Grèce. Il y a, on voit aussi des limaces, des carabes qui mangent des vers de terre. Et puis il y a le fameux patelmint qui vient d'arriver depuis une dizaine d'années et dont on ne sait pas vraiment s'il s'attaque à toutes les espèces lombriciennes. Mais voilà, encore un nouveau prédateur qui vient d'arriver de Chine, d'Océanie. Et les vers de terre résisteront-ils à ce patelmint? Bien, nous le saurons dans 150 ans à peu près.
Ok. La question a été posée aussi dans le reportage qu'on a entendu tout à l'heure. Est-ce qu'on assiste à une diminution du nombre ou de la qualité des vers de terre, alors que ce soit en Bretagne, la région qui nous concerne, mais aussi peut-être en France ou dans d'autres coins du monde, avec les éléments climatiques, avec l'intervention de l'homme. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus ?
D'abord, on va séparer les interventions humaines en interventions à court terme puis à long terme. Court terme, ben, c'est la répétition d'utilisation de produits phytosanitaires, mais aussi de travail du sol avec des charrues ou des engins mécaniques ou différentes autres activités agricoles, mais qu'on retrouve aussi chez les jardiniers amateurs. Aujourd'hui, on a identifié que le travail mécanique, donc le labour des sols, avait un impact négatif sur le vers de terre. Mais par contre, on peut compenser cet impact négatif du labour par le fait d'apporter à manger aux vers de terre survivants. Donc là, des fois, grâce à ça, on peut obtenir autant de vers de terre qu'avant, mais avec moins d'espèces. Mais par contre, c'est pas uniquement la charrue qui est dangereuse, c'est aussi après le travail du sol pour préparer le lit de semences. Et donc là, les gens vont utiliser des engins rotatifs, mais le jardinier fait pareil avec sa fraise et son motoculteur. Les engins rotatifs vont segmenter les vers de terre en plusieurs morceaux, et même un vers de terre coupé que en deux ne survit pas. Un vers de terre coupé en deux, ça fait un vers de terre mort. Ça fait pas deux vers de terre. Donc par rapport à ça, il faut aussi, si possible, diminuer les engins rotatifs, les remplacer par les engins à dents ou à disque. Après, il y a par rapport à ça aussi donc les produits phytosanitaires qui sont plus ou moins dangereux, selon justement la cible visée. On pensera aux insecticides, on pensera aux fongicides, qui sont des molécules qui sont le plus souvent dangereuses pour les lombriciens. Molécules de synthèse ou produits naturels. Pour les fongicides, le cuivre a un impact négatif sur les vers de terre, autant, voire plus, que d'autres fongicides de synthèse. L'insecticide, comme le métabolisme est assez proche, il a un impact assez fort aussi sur les vers de terre. Les antilimaces qui sont aujourd'hui beaucoup utilisées aussi par les jardiniers. Il y a des antilimaces autorisées en bio, mais les vers de terre sont friands de ces petits granulés autant que les limaces. Voilà, donc aujourd'hui, on a identifié des pratiques qui dégradaient le nombre de vers de terre, qui faisaient disparaître des espèces de lombriciennes dans les sols agricoles, par exemple.
On a compris que les activités agricoles et notamment l'usage de produits phytosanitaires étaient assez néfastes pour ces vers de terre. Est-ce que une autre explication, s'il en est une, peut être aussi le changement climatique? Est-ce que ça peut avoir aussi un impact par rapport à cette fragilité des vers de terre?
Aujourd'hui, on manque de recul par rapport à ces changements climatiques, mais quand même, on peut déjà constater qu'il y a des épisodes de sécheresse estivale qui durent non pas trois mois, mais qui durent 4, 5, voire 6 mois. On pensera surtout au sud de la France, où on a des zones de sécheresse, des périodes de sécheresse beaucoup plus longues que dans la France du Nord. Et donc, dans ces zones-là, les vers de terre, qui eux sont des animaux quasiment aquatiques, parce qu'ils ont besoin d'eau pour pouvoir respirer et pour pouvoir survivre, et bien dans les sols desséchés, ils ont une capacité à résister au dessèchement, qui était autour de 2 mois de vie au ralenti pour attendre les retours des pluies automnales. Mais là, maintenant, on est plutôt à 3 ou 4 mois après que le sol soit bien sec. Et bien, le sol reste très sec pendant au moins 2 mois actuellement. Donc ça, on ne peut pas encore mesurer, puisqu'on n'a pas encore des mesures fiables. Par exemple, mesurer il y a 20 ans et puis dans les mêmes parcelles, revenir 20 ou 30 ans plus tard. Et aujourd'hui, on est plus en phase de poser des hypothèses. Et cette hypothèse des changements climatiques qui entraînent des sécheresses estivales beaucoup plus longues chez nous risque de poser problème aux vers de terre d'ici 10 à 30 ans.
Donc on a compris, impact négatif du fait des sécheresses à répétition et souvent plus longues, et puis également de l'usage par les activités agricoles de produits phytosanitaires toxiques pour les vers de terre. Quelles sont un peu les actions qui sont menées actuellement ou qui seraient à mener pour mieux protéger ces vers de terre?
En action de base déjà, c'est la formation et l'information. C'est informer les gestionnaires des sols Donc les gestionnaires, ça peut être bien sûr être des agriculteurs, mais je vous le disais, ça peut être des jardiniers, et ça peut être aussi des personnes responsables des espaces verts urbains. Donc c'est informer de l'intérêt de favoriser les vers de terre et donc de supprimer des pratiques qui seraient très dégradantes pour les vers de terre. Donc ça, c'est l'information via des sites web, via la participation des salons. Après, c'est la formation. Donc c'est rentrer en contact avec les gens intéressés pour aller chez eux dans leur environnement et faire une formation aux vers de terre, à la fois sur la biologie, l'écologie des vers de terre, mais aussi après sur l'observation des vers de terre pour pouvoir contribuer à l'observatoire participatif des vers de terre. Et donc ça, c'est déjà des premières actions de base et de fond qu'il faut mener systématiquement. On va pas attendre de connaître encore plus de choses sur les vers de terre pour pouvoir commencer à faire de la formation auprès des utilisateurs des sols. Allons-y, même si on connaît pas tout, même si on sait pas répondre à toutes les questions qu'auront ces personnes, on les aura déjà informés de choses importantes à prendre en compte dès que possible. Et donc à partir de là, les actions, c'est quand on veut restaurer les populations dans une parcelle donnée, eh bien, c'est de savoir déjà s'il en reste dans la parcelle. Et s'il en reste, eh bien, il faut adapter les modes de gestion, les pratiques de gestion, ce qu'on disait tout à l'heure. Par contre, s'il en reste plus, ben, il faut savoir s'il en reste dans les parcelles voisines. Et comment faciliter le déplacement des vers de terre, des parcelles voisines vers la parcelle qu'il faut recoloniser. Donc ça s'appelle la trame brune. C'est une trame écologique qui va être utilisé par des organismes qui n'ont pas beaucoup de moyens de déplacement. Un vers de terre, ça va faire 10 mètres par an. Ça veut dire que pour traverser un hectare, il va lui falloir 10 ans. Alors, vous voyez un peu la vitesse à laquelle il peut recoloniser des espaces dépourvus de vers de terre. Donc, c'est pour ça qu'en travaillant avec les aménageurs, eh bien, on peut identifier comment faire passer les vers de terre et donc préserver des corridors qui vont permettre justement à des vers de terre de coloniser, de recoloniser les milieux urbanisés qui viennent d'être urbanisés. Et donc ça se fait en concertation avec les bureaux d'architectes ou d'aménageurs, donc des mondes qui se connaissent pas, mais qui aujourd'hui apprennent à se connaître aussi.
Daniel Cluzeau, au-delà de cet entretien, quelle référence, peut-être des sites, des ouvrages, pourriez-vous peut-être conseiller à nos auditeurs qui voudraient, et c'est le cas de le dire, encore creuser le sujet des vers de terre?
Ben, sur les vers de terre, ça serait plus simple de venir sur notre site web et puis regarder ce qu'on peut trouver comme bibliographie, comme photos, comme petits liens vidéo.
Si vous voulez donc consulter ce site, il s'appelle ecobiosol.univ-rennes1.fr. Effectivement, on y trouve une somme de références, de photos, de fiches pratiques, j'imagine.
Voilà, puis surtout, il est aussi en cours d'évolution, parce qu'on a demandé une aide au Conseil régional pour nous aider à le remanier, parce que donc maintenant, il est commencé à être un peu ancien, parce qu'il avait 10 ans.
Très bien, Daniel Cluzeau, merci beaucoup. On vous écouterait pendant des heures. C'est absolument passionnant de parler avec vous des qualités intrinsèques et de l'apport de ces vers de terre. Malheureusement, on est un peu pris par le temps. Je rappelle que vous êtes enseignant, donc chercheur à l'Université de Rennes 1 sur la distribution et l'écologie des vers de terre à l'unité mixte de recherche CNRS Ecobio et donc responsable scientifique de cet observatoire des vers de terre, observatoire participatif des vers de terre en liaison avec la station biologique de Paimpont. Je vous rappelle une nouvelle fois le site de l'observatoire ecobiosol.univ-rennes1.fr. Retrouvez donc toutes nos émissions en diffusion sur les radios locales et associatives de Bretagne, sur Radio Boa, Bretagne en Air, leur émanation régionale et en podcast sur également le site corlab.org, rubrique podcast, émission biodiversité en air. Merci beaucoup Daniel Cluzeau.
Merci, au revoir.
Et à donc à bientôt pour un nouvel épisode de notre émission dédiée aux actions en faveur de la biodiversité en Bretagne. D'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.